Écouter un écrivain,
entendre son œuvre,
des entretiens,
des lectures.
Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h.
Des auteurs français, des auteurs étrangers.
Jean-Philippe Toussaint,
Annie Arnaud,
Antonio Lobo Antunesch,
André Brink,
Jean d'Ormesson,
Lydie Salvert. Et toute cette semaine, Geneviève Brissac s'entretient avec Annie Arnaud. À voix nue. Annie Arnaud s'entretient avec Geneviève Brissac. Deuxième volet.
J'essaie de ne pas considérer la violence, les débordements de tendresse, les reproches de ma mère comme seulement des traits personnels de caractère, mais de les situer aussi dans son histoire et sa condition sociale. Cette façon d'écrire, qui me semble aller dans le sens de la vérité, m'aide à sortir de la solitude et de l'obscurité du souvenir individuel par la découverte d'une signification plus générale. Mais je sens que quelque chose en moi résiste et voudrait conserver de ma mère des images purement affectives, chaleur ou larmes, sans leur donner de sens. C'était une mère commerçante. Elle appartenait d'abord aux clients qui nous faisaient vivre. Bon, je ne vais pas continuer, Annie Arnaud. Cette phrase, ce petit paragraphe extrait d'une femme, évoque donc votre mère, puisque c'est par elle qu'on va continuer. C'est un livre donc qui essaye de rassembler ces différents visages. Et ça a été un livre difficile à écrire. Et on va partir peut-être par là.
Oui, c'est un livre difficile parce que je l'ai écrit, j'ai commencé de l'écrire quelques mois avant qu'elle meure, mais quand j'écrivais, elle était déjà depuis quelques années atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et donc elle était dans la destruction, son image qui a été si forte, si flamboyante, je crois, violente, comme vous venez de lire, d'un seul coup, devenait celle d'une femme qui ne se souvient plus, qui est une enfant, qui aussi d'une femme qui est folle. La maladie d'Alzheimer, c'est aussi une forme, par certains mots, ressemble à la folie. Et comme en plus, c'était une femme qui était violente, je me répète, mais c'est vrai que c'est certainement un des termes qui peut le mieux la caractériser. Elle était aussi dans sa maladie d'Alzheimer d'une extrême violence et dont des reproches ou des phrases qui lui venaient et qui m'atteignaient très profondément. Donc, et elle est morte subitement. Donc en avril 86, et là j'ai repris complètement le texte que j'avais commencé, et j'ai écrit ce livre, et je me suis aperçue combien c'était plus difficile d'écrire sur elle que ce ne l'avait été sur mon père. Parce que sans doute le deuil était très récent, mais il y avait autre chose, c'est que j'avais avec elle des rapports beaucoup plus complexes, et que il fallait justement, je voulais absolument raconter l'histoire d'une femme, et pas ma mère, hein, c'est ce titre-là, une femme, c'est-à-dire de la trajectoire d'une petite fille qui est née au début du siècle, était née en 1906, et qui sera ouvrière, commerçante, donc par certains côtés, ça ressemble à mon père, oui. Mais ce n'est très très différent, c'est très différent, parce qu'elle est animée d'une personnalité, c'est une battante, et c'est une révoltée.
Et c'est aussi une personne très intelligente.
Et c'est une personne qui veut toujours, pour qui le savoir compte énormément. et qui a une, des, bon, de, un sens de la beauté et qui aime énormément la vie et qui aime tout, je crois. Alors évidemment, il y a un embargo sur le sexe, on va dire, mais peut-être justement les...
Encore
les...
qu'ils surgissent de temps en temps.
Oui, mais... oui, oui, bien sûr. C'est... Mais c'était une question qui restera pour moi assez opaque. Je ne pourrais pas savoir exactement, mais j'ai la... Bon, je pense d'après, justement, j'en ai parlé encore dans le journal sur la maladie de ma mère, je ne suis pas sortie de ma nuit, combien elle était toujours hantée par le sexe. Finalement, donc je crois que ça existait. Et l'écriture de ce texte, une plongée dans quel, dans un magma, je crois, d'où surgissait au fond une chose qui est, c'est sans doute que ma mère a eu une importance capitale, non seulement dans ma vie, mais dans mon écriture. C'est une femme qui a lutté contre beaucoup de choses, celles que je connais et d'autres que je ne connaîtrai jamais, qui ressortissent à l'enfance. Et je pense beaucoup à l'usine.
Oui.
À l'usine, oui. Il y a une lutte, il y a très seulement une lutte pour rester digne à l'usine. Et aussi pour, elle ne supportait pas d'être... Elle ne supportait pas d'être commandée, comme elle disait. Donc, elle a eu souvent des histoires avec les contremaîtres, avec les chefs, parce qu'elle supportait très très mal quand
l'autorité.
L'autorité, voilà.
Mais alors, elle se retrouve. Alors, dans les armoires vides, la perception qu'a le lecteur
oui.
de la mère de Denise Le Sueur est très différente.
Oui.
Parce que c'est la première vision. Alors, il y a une double mère. Il y a une mère. Généreuse,
oui.
bonne, qui a l'épicerie, et,
oui.
etc. Et puis il y a aussi une mère.
La mère conformiste.
Oui, conformiste. Donc,
oui, mais ça aussi,
répressive,
c'est vrai. Répressive. Oui, mais c'est vrai. Et,
et en plus, celle dont on a honte éventuellement, parce qu'elle oui. fait quand même pas. Elle a beau être conformiste, non. elle ne fait quand même pas comme il faut, ce qui est
voilà.
malgré tout.
Exactement, oui.
C'est quand même.
Oui, elle restera, elle aura toujours des. Malgré ses efforts, malgré. Elle a deux visages, je dis. Elle a le visage de commerçante et elle a le visage dans le monde, mais elle a aussi les gestes. Les façons de parler, elle a deux langages.
Elle n'a pas de robe de chambre.
Non, par exemple, comme de, bon, elle n'a pas de robe de chambre. Ça ne lui viendrait pas à l'idée d'avoir une robe de chambre, bien sûr. Et d'où elle apparaîtra en chemise de nuit, plus, donc, comme je dis, dans la honte devant les élèves de la classe et la maîtresse qui me plongera dans la honte la plus affreuse. Voilà, parce que c'est la mère que j'aurais voulu qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire la mère de l'intimité,
de l'intérieur, oui.
de l'intérieur, et celle aussi qui me bat. Hein.
Qui donne des coups de poing.
Ah oui, elle donne des coups de poing. Elle ne donne
c'est
pas
toujours
les
fameux poings. D'ailleurs.
Voilà, oui. c'est pas la fessée, ma mère. Oui. C'est soit la gifle qui est très humiliante, soit quand elle est vraiment très en colère, c'est les coups qui s'abattent. C'est la grêle de coups. Et ce sont des. Alors je suis dans une révolte évidemment extraordinaire, et il faut composer. Avec cette violence-là et avec qui est fréquente de la part des femmes, des hommes, les enfants reçoivent des coups.
Sont plus faibles. Et donc
voilà,
ils prennent des coups
pour les dresser. Une bonne correction, ça s'appelle une bonne
oui.
correction. Hein. Alors, je ne pactise pas du tout avec ce modèle éducatif. Simplement, je reconnais que c'est ce modèle-là qui est courant.
Qui était
donc,
en vigueur,
qui est en
qui
vigueur.
Est d'ailleurs assez largement encore.
Oui, peut-être aussi répandu. Mais dans le monde populaire, et je crois qu'il faut que je fasse avec aussi une extrême bonté de la part de ma mère. Elle me gâtait énormément. Elle ne me refusait rien dans la mesure de ses moyens.
Elle dit je ferai tout pour toi.
Oui, c'était oui, mais elle me le reprochait en même temps.
C'est difficile de tout faire pour quelqu'un sans le reprocher, peut-être.
Je ne sais pas, mais je le vivais aussi assez mal parce que quand on est adolescent, on se dit c'est pas parce que ma mère a travaillé à l'usine
dès l'âge
voilà que moi je parce que je fais des études on me reproche de
le
pas être
assez
jeune oui de le pain oui un peu ça c'est bien sûr c'est que très souvent j'ai eu le sens effectivement du privilège qui m'était accordé par rapport à beaucoup, c'est-à-dire de pouvoir poursuivre des études. Parce que poursuivre des études, il faut bien savoir, c'était pas seulement que ça pouvait coûter cher, mais c'était que je ne travaillais pas.
Alors, c'est vrai que cette mère valorise les études.
Énormément.
Même si, les bonnes manières veulent qu'on n'en fasse pas état. Et qu'elles disent toujours, on ne l'a pas poussée, c'est elle qui a voulu, etc. etc.
Oui, c'est vrai qu'elle ne surveillait pas mes devoirs. J'étais vraiment libre de faire ce que je voulais lorsque je rentrais de classe. D'ailleurs, très longtemps, je n'ai pas appris mes leçons, parce que je les apprenais vite, donc on ne me voyait même pas dans mes livres. Mais comme les résultats étaient là, il n'y avait pas de problème.
Alors, on parlait de ce langage, donc de ce langage maternel, la langue maternelle, qui est...
Oui, je crois, enfin je m'en aperçois de plus en plus, et c'est qu'il est au fond, de mon écriture, parce qu'il est, sans doute le paradigme du langage de toute la classe sociale, en fait, dont je suis issue. En ce sens que les mots, maintenant, il y aura plus de 17 ans que, non, pas tant que ça, 16 ans que ma mère est décédée. Et il y a quelquefois donc les mots qui me reviennent. Et j'avais raison de dire à la fin d'une femme que c'était le dernier lien avec le monde dont je suis issue. Je l'ai écrit un peu intuitivement, dans la violence du deuil et de la fin de ce livre-là. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que il y a tout un langage que je n'entendrai plus, que je ne peux plus entendre, d'abord parce que je suis déracinée de la Normandie et déracinée aussi du monde populaire, et que ce langage-là, il ne peut me revenir que par les autres, quand j'entends ces mots-là. Ou alors, quelquefois, ils me traversent, ce son. Et je m'aperçois à quel point ils sont comme des choses, ce sont comme des objets, ce sont comme des pierres, ils sont liés, ils sont capables de refaire surgir, comme Proust, tout ce monde-là, les mots de
une seule expression.
Oui, une seule expression. Être amitieux, on dit d'un enfant ou d'un chien qu'il est amitieux, ça c'est très répandu en Normandie.
Ce serait comme des petites buttes témoins finalement.
Voilà, ce sont des mots parce qu'il n'y en a pas d'autres pour exprimer vraiment
ça. Un petit sens précis.
Oui, oui.
Et parce que j'ai pensé à cause d'une métaphore, on dit, et c'est vrai qu'il y a peu de métaphores dans vos livres, de toute façon même plus les années passent et moins il y en a peut-être, et vous dites d'ailleurs à plusieurs reprises que vous ne considérez que vous n'avez pas droit à la métaphore comme une appropriation, ce qui est à la fois une coquetterie et en même temps un choix de vie, disons, quelque chose comme ça.
Peut-être, oui.
Oui. Mais c'est pas ça que je voulais en venir. Ce que je voulais dire, c'est que vous présentez donc ce déracinement comme le déracinement d'immigrés, c'est-à-dire d'immigrés de l'intérieur.
L'immigré
mais
de
ça
l'intérieur.
Ça ne change rien du tout.
Non, ça change.
C'est-à-dire que comme on parle pour les Américains de gens d'Indiens ou qui ont la langue anglaise par-dessus leur langue et leur culture, vous expliquez très bien comment cette langue de l'école ou cette langue écrite que vous avez conquise, acquise,
vous êtes appropriée. Avec grande facilité,
avec
certainement.
Grande facilité.
Oui, bien sûr. Quoique, j'avais un langage très académique dans mes rédactions.
Et que ça a passé.
Classe, Oui, mais il fallait
le dépouiller, en fait. Oui, donc, il y a eu une langue primitive, une langue académique par-dessus et une langue dépouillée, qui serait la langue de l'écriture dénudée, pour parler d'Awani.
Qui est une langue qui fait, au fond, qui fait presque, je ne vais pas dire la synthèse, mais un peu, tout de même. C'est-à-dire qu'avec tout ce que j'ai appris du beau langage, la syntaxe, j'ai eu une éducation aussi très classique, donc fréquenter, bien sûr, les classiques au sens restreint du terme, et puis, bien entendu, les romans du 19e, etc. Et donc, c'est tout ce que j'ai acquis de technicité, mais à travers cette forme, cette structure, de faire passer cette autre langue primitive, donc il ne se retrouve pas intact, jamais.
Oui, qui jamais. Est cassé en fait.
Oui, qui est à l'intérieur avec le choix de certains mots, avec aussi ce dépouillement, c'est-à-dire une violence des mots finalement.
Voilà,
une
violence qui
vient
dans la retenue en fait.
Dans la retenue, une violence qui vient dans la retenue, dans la litote au fond. Ce serait la litote classique, mais mise
renversée,
au service,
oui.
Renversée pour le monde.
Contenir de la violence en
oui.
fait.
Oui.
Alors, si tout cela était possible, c'est aussi pour une autre raison qu'on n'a pas du tout évoquée, c'est que les rôles féminins et masculins, en l'occurrence les rôles de votre mère et de votre père, n'étaient pas du tout traditionnels.
Non.
C'est-à-dire que s'ils avaient en commun, effectivement, d'être venus de l'usine
pour aller vers le commerce,
ils avaient réparti un peu à leur manière. Vous dites souvent que vous êtes une grande fille un peu braque. Mais vos parents avaient un petit côté braque aussi.
Certainement.
Chacun.
Oui, j'aime bien que vous disiez cela parce que je pense que le couple de mes parents a dû apparaître souvent, même dans la, bon non, pas tellement dans notre classe sociale, pas trop, non, mais un peu à l'extérieur, oui, certainement. Et c'est que mon père était un homme doux, tendre, avec une voix assez douce, une voix bien timbrée, hein, mais calme et c'est quelqu'un qui était extrêmement amoureux de ma mère, qui adorait ma mère et qui a été, je pense, dès le départ tout à fait subjugué par elle. Et elle, eh bien, c'était une femme qui menait la barque, qui était, je dis à un moment, la volonté sociale du couple, mais la volonté tout court, et qui donc elle s'occupait. Dans le commerce, elle s'occupait de la comptabilité, elle s'occupait des impôts, des commandes. Et mon père, lui, servait au café.
Voilà. Il faisait la vaisselle.
Et il faisait la vaisselle. Ah,
Et la cuisine.
Et la cuisine. À un moment même, il fait la cuisine pour des filles qui travaillaient dans une usine proche et qui souhaitaient manger le midi parce qu'elles étaient de la campagne autour. Et mon père faisait à manger pour 6-7 personnes le midi.
Ça veut dire quand même des repères du féminin et du masculin.
Ah oui,
c'était un petit peu spéciaux, disons.
Ils étaient très différents, mais pour moi, c'était tout à fait normal. Ma mère s'intéressait absolument pas au ménage. Elle faisait quelquefois son lit. Donc il y a une scène dans les armoires vides, hein, c'est qui m'a profondément humiliée parce que ma mère ne faisait pas sa chambre. Elle le faisait quand elle avait le temps. Elle faisait pas son lit et elle avait pas de notion de ce qu'il fallait faire ou pas. De toute façon, il y avait très peu de meubles, etc. à la maison. Mais à l'école, donc on m'avait fait comment votre mère fait sa chambre l'après-midi. Donc vous voyez, il y avait des repères très très strict.
Oui, très bien.
Oui, et bon, ma mère préférait. Bon, elle ne jardinait pas. Parce que mon père jardinait, mais lorsque mon père est mort, elle s'est occupée un petit peu du jardin je sais qu'elle aimait cela, oui. Mais elle était, vous savez, elle était très forte. C'était une femme
costaud,
pas très grande. Je suis beaucoup plus grande qu'elle, mais elle était bâtie à chaud et à sable. Voilà une expression.
Mais d'ailleurs, vous avez pensé après qu'elle ait eu son accident qu'elle se rétablirait parce que
Elle avait cette santé, cette volonté. Mais jusqu'au bout, même dans sa maladie d'Alzheimer, elle a eu cette volonté de vivre. Et j'ai toujours tellement senti cela chez ma mère. C'est un modèle formidable. Je dis que le féminisme, il commence là.
Oui, c'est vrai, je le
crois.
Bien
sûr.
C'est dingue. En revanche, votre père était un petit peu moins armé pour aimer la vie. Et ce qui est très, très beau dans la place... qui est un très beau livre qui lui est consacré, en fait, qui est son statut ou monument, et pas du tout un bon mot, parce qu'aussi bien pour une femme que pour la place, c'est comme des tableaux, je crois. C'est comme moi, je vois ça comme des tableaux, le portrait de mon père, le portrait de ma mère.
Oui, mais en même temps, je crois qu'ils ont une certaine généralité, parce qu'il y a très peu d'aspects anecdotiques, d'histoire personnelle. Donc chacun peut...
Il peut y mettre les siens,
d'une certaine façon.
Oui, c'est ce que les
gens font. Oui. Mais mon père était moins armé pour se battre, on va dire. Il était... Certainement, il aurait été ouvrier sans problème parce qu'il avait une culture ouvrière.
Et c'est important pour vous, parce que vous disiez que c'est par votre mère que vous aviez acquis l'écriture. Mais j'ai souvent pensé en vous lisant qu'il y avait vraiment des fils qui vous reliaient à votre père, très précieux de ce point de vue-là, de cet attachement, et même de cet attachement aux choses qu'on aime, même si les autres ne les aiment pas.
Oui, je crois que c'est vraiment... Il avait, j'allais dire, l'orgueil de dire, eh bien non, je n'aime pas lire. Il l'assumait.
Oui, je préfère regarder dehors.
Oui, voilà ce qu'il aimait. Il aimait donc construire. Vous savez, je suis retournée quelques fois dans le quartier et j'ai vu la maison. Donc, et je suis très fière parce qu'il reste toujours le garage qu'il a construit de ses mains. Il y avait, quand nous sommes arrivés en 45, il y avait toutes sortes de bâtiments de briques et de brocs. Bon, tout cela au fil des années disparu, et pour la voiture qu'il avait achetée en 56, une petite 4 chevaux, il avait construit lui-même le garage, et ce garage donc est toujours là, et c'est vrai que j'en éprouve une fierté
et même de l'émotion à vous observer, Anne.
Oui, c'est vrai.
Et à lui, quelle part vous attribueriez dans cette disposition où vous êtes par rapport au monde, alors ?
Par rapport au monde, je crois que... je ne sais pas si c'est un cadeau ou pas, mais pour moi, vous savez, cette image du père qui fait la loi, c'est l'homme qui est aussi sans tendresse, etc. Moi, je n'y crois pas. Les hommes, je supporte très mal la domination générale masculine, soit dans ma vie personnelle, soit d'une manière générale. Et c'est pour moi, c'est incompréhensible. Et donc, c'est à mon père que je le dois. Je sais que les hommes peuvent pleurer, que les hommes peuvent être tristes, qu'ils ont plus de force physique. Oui, c'est vrai, mon père était quand même...
Pour
la plupart. Il était plus fort que ma mère. Mais il a eu une opération qui lui a enlevé une opération de l'estomac qui lui a enlevé cette force. Et c'était ma mère qui portait les casiers, etc. Donc, j'ai une vision très, c'est vrai, très égalitaire des rapports entre hommes et femmes. Et voilà, je lui dois
ça.
Je lui
vient
dois
de là.
Ça, oui.
Alors donc, votre père il tenait le café.
Oui.
Revenons-y à ce langage du café. Et au café, il y avait des hommes, quand vous étiez, tout le temps d'ailleurs, mais qui vous frappaient beaucoup, en particulier quand vous étiez petite. Parce qu'ils étaient frappants d'abord.
Et puis ils
racontaient des histoires aussi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les hommes, toute petite, même à Lillebonne, donc le premier café de mes parents, je m'intéressais beaucoup. J'étais toujours dans le café. J'aimais beaucoup pour les entendre parler. Puis ils avaient toujours des histoires complètement faramineuses. La vantardise masculine,
c'est un mystère, c'est pour vous.
Ça c'est pas un mystère. Je l'ai vu tout le temps. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours prêts à faire des choses extraordinaires. Ils avaient fait des choses extraordinaires. Et aussi, c'était des gens qui s'amusent, quoi. Ils s'amusaient. D'ailleurs, ma mère disait, les hommes s'amusent au café. C'est un terme. S'amuser au café. Voilà. Tandis que les femmes, elles travaillaient, faisaient des courses. Elles ne s'amusaient jamais.
Il y en avait aussi quand même qui vous déplaisaient beaucoup. C'était les vieux, hein.
C'est curieux, oui. C'est-à-dire que j'ai eu une expérience beaucoup avec. Il y avait un hospice tout proche, et c'était pas très bien surveillé à l'époque. Et donc les petits vieux de l'hospice
venaient chez
mes parents, ça, dans les années fin des années 40, dans les années 50, au même longtemps, je crois, parce que quand ma mère a quitté en 70, je me souviens qu'elle m'a raconté qu'elle avait fait cuire un lapin pour les petits vieux de l'hospice, etc. Donc c'était encore tout proche, et j'avais une répugnance, c'est vrai, pourquoi pas le dire, j'avais une répugnance pour eux.
Et puis c'était quand même des êtres bizarres, parce que les grandes personnes sont censées être... Je pense que c'est une expérience importante quand on est enfant, parce que les grandes personnes sont censées être des gens justement de confiance. Oui. Et des vieilles personnes ivres ne donnent pas exactement cette... donnent quand même un sentiment d'insécurité aussi.
Et l'alcoolisme est très, très présent dans mon enfance, hein, sauf en ce qui concerne mes parents.
Oui.
Mais il est présent dans la famille, il est présent dans le café. Il y a des femmes qui sont ivres aussi, il y a des femmes qui boivent dans le quartier. C'est une donnée, j'allais dire, une sociale, donnée de ce monde. C'est une donnée sociale qui est maintenant, et heureusement, donc, en perte de vitesse, de vérité. Mais je crois que longtemps, j'ai pensé que c'était quasiment normal et ça me répugnait beaucoup. Ça, j'avais peur de l'ivresse, j'avais peur de
ça de fait cette... partie, oui, je crois que ça fait partie de l'humiliation, de toute façon.
Énormément.
On y voit, j'y ai pensé en lisant cette scène qui se passe chez le dentiste, et le dentiste, sans le vouloir, dit « le cidre t'a mangé les dents ».
Oui, enfin,
il dit pas ça comme
non,
ça.
Non, c'est pas ça, il me dit « tu bois, est-ce que le
cidre… » Avant de regarder, en fait.
Oui, c'est ça, oui, le cidre. Et je suis un peu scandalisée parce que mes parents, justement, ne voulaient pas que je boive de cidre.
C'est un présupposé social, c'est un présupposé humiliant, en fait.
Donc après donc cette scène de la honte, je suis sensible à toutes ces humiliations.
Qui sont des paroles de racisme, en fait, parce que ça présuppose chez l'autre un comportement qu'on croit connaître.
Ça, c'est un souvenir. Il y aurait certainement beaucoup d'autres de cet ordre-là.
C'était « À vos nues ». Annie Ernaux s'entretenait avec Geneviève Brisac. Bruno Sourcy.
Culture, un été d'écrivain. Deuxième partie, le temps de la lecture avec Annie Arnaud. Dans son livre Les années, paru en 2008, Annie Arnaud évoque souvenirs personnels et histoires collectives des années 1940 à aujourd'hui. Grâce au récit d'événements, à la description d'objets, de photos, l'auteur nous parle de sa vie, mais aussi de l'évolution de la société et du temps qui passe. Elle aime qualifier son livre d'autobiographie impersonnelle. Nous proposons en nouvelle diffusion 5 des 10 épisodes qui composaient ce feuilleton réalisé par Étienne Vallès.
Fandango du Pays Basque, Fandango simple et fantasque, c'est grâce à toi que l'on fait des folies qui sont bien les meilleures de la vie. Et combien de mariages on a vu dans le village, sur tes accents si joyeux, si vibrants, et ton rythme qu'on a dans le sang. Fandango, fandango, rythme tous les bravos, et répète l'écho de Sarabimao. C'est le chant des oiseaux, c'est le chant du ruisseau, c'est le chant de l'amour, fandango.
Les années de Annie Arnaud. Adaptation Sophie Lem. Avec Ludmila Michael et Jacques Gamblin. Deuxième émission.
La photo floue et abîmée d'une petite fille debout devant une barrière, sur un pont. Elle a des cheveux courts, des cuisses menues et des genoux proéminents. À cause du soleil, elle a mis sa main au-dessus des yeux. Elle rit. Au dos, il y a écrit « Ginette 1937 ». Sur sa tombe, décédée à l'âge de 6 ans le jeudi saint 1938. C'est la sœur aînée de la fillette sur la plage de Sotteville-sur-Mer.
Montagne d'Italie, souvenir dans ma vie, farandoles et chansons tyroliennes qui s'égrènent dans la plaine. Je n'oublierai jamais ce clocher qui chantait Carillon, que les gars et montagnes accompagnent d'un bouquet. Et tous les amoureux, mes amis, étaient joyeux. Je me souviens encore du soleil au ciel tout bleu. Les oiseaux chantaient dans le feuillage. Mariage au village. Elle lui donnait le bras en sortant de la mairie. Et lui était heureux de l'aimer pour toute la vie. Leur amour est né près des nuages, des montagnes d'Italie. Je n'oublierai jamais ce clocher qui chantait Carillon, que les gars des montagnes accompagnent d'un bouquet.
La-di-o-di-o-di-o-di-o-di-o-di, chante montagnard, il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. La-di-o-di-o-di-o-di-o-di, chante les beaux jours, chante pour toujours. La chanson de ton amour. La chanson de ton amour.
La France était immense et composée de populations distinctes par leur nourriture et leur façon de parler. Arpentée en juillet par les coureurs du Tour dont on suivait les étapes sur la carte Michelin punaisée au mur de la cuisine. La plupart des vies se déroulaient dans le même périmètre d'une cinquantaine de kilomètres. Quand s'élevait à l'église le grondement vainqueur du cantique « Chez nous, soyez reines », on savait que « chez nous » désignait là où l'on habitait, la ville, au plus le département. L'exotisme commençait à la grande ville la plus proche. Le reste du monde était irréel. Paris représentait la beauté et la puissance, une totalité mystérieuse, effrayante, dont chaque rue figurant dans un journal ou citée par la réclame, boulevard Barbès, rue Gazan, Jean Mineur, 116 avenue des Champs-Élysées, excitait l'imagination. Les gens qui y avaient vécu ou qui s'y étaient seulement rendus en excursion avaient vu la tour Eiffel, étaient auréolés de supériorité. Les chansons évoquant les régions inconnues, le Midi, les Pyrénées, les fandangos du Pays Basque, montagnes d'Italie, Mexico, donnaient du désir. Dans les nuages du couchant bordés de roses, on voyait des maharajas et des palais indiens. On se plaignait aux parents, « On ne va jamais nulle part !» Ils répondaient avec étonnement.
« Où veux-tu aller ? Tu n'es pas bien là où tu es ?»
C'est aujourd'hui qu'on s'amuse à Marseille. Le grand Titaigne vient de se marier. Sur le vieux port, que midi ensoleille, tous les amis sont venus se grouper dans la mairie. Ce bon monsieur le maire, aux invités, a fait un beau discours. Il a tant mis de chaleur à le faire que tous ont soif et chantent avec humour. C'est le mariage de Titaigne.
Tout ce qui se trouvait dans les maisons avait été acheté avant la guerre. Les casseroles étaient noircies, démanchées, les cuvettes désémaillées, les brocs percés colmatés avec des pastilles vissées dans le trou. Les manteaux étaient retapés, les cols de chemise retournés, les vêtements du dimanche passés au tous les jours. Qu'on n'arrête pas de grandir, désespéraient les mères, obligées de rallonger les robes d'une bande de tissu, d'acheter des chaussures, une pointure au-dessus, trop petite un an après. Tout devait faire de l'usage, le plumier, la boîte de peinture le franc et le paquet de petits beurre lus. Les seaux de nuit servaient d'engrais au jardin, le crottin ramassé dans la rue après le passage d'un cheval à l'entretien des pots de fleurs. Le journal a enveloppé les légumes, séché l'intérieur des chaussures mouillées, s'essuyé au cabinet. On vivait dans la rareté de tout. Des objets, des images, des distractions, des explications de soi et du monde, limitées au catéchisme et au sermon de carême du père Riquet, aux dernières nouvelles de demain proférées par la grosse voix de Geneviève Tabouille, aux récits des femmes racontant leur vie et celle de leurs voisins l'après-midi autour d'un verre de café. Les enfants croyaient longtemps au Père Noël et au bébé trouvé dans une rose ou un chou. Les gens se déplaçaient à pied ou à bicyclette d'un mouvement régulier, les hommes les genoux écartés, le bas du pantalon resserré par des pinces, les femmes les fesses contenues dans la jupe tendue, traçant des lignes fluides dans la tranquillité des rues. Le silence était le fond des choses et le vélo mesurait la vitesse de la vie. On vivait dans la proximité de la merde. Elle faisait rire.
Il ne faut pas tuer les hirondelles, c'est un oiseau très utile, car elles attrapent d'un coup d'aile les petits insectes nuisibles. Je sais qu'elles font sur les fenêtres des choses pas très propres peut-être, mais pardonnez-leur, tout cela n'est rien auprès de ce que fait un humain. Cui-cui, 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 regardez-la passer par là. Cui-cui, 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 elle voudrait bien qu'on ne la tue pas. Un brave soldat, pendant une triste.
Les garçons et les filles étaient partout séparés. Les garçons, être bruyants, sans larmes, toujours prêts à lancer quelque chose, cailloux, marrons, pétards, boules de neige dures, disaient des gros mots, lisaient Tarzan et Bibi Fricotin. Les filles, qui en avaient peur, était enjoint de ne pas les imiter, de préférer les jeux calmes. La ronde, la marelle, la bague d'or. Les jeudis, en hiver, elle faisait la classe à des vieux boutons ou des figurines découpées dans l'écho de la mode, disposées sur la table de la cuisine. Encouragées par les mères et l'école, elles étaient rapporteuses. « Je vais le dire » constituait leur menace favorite. Elles rêvaient d'avoir des seins et des poils, une serviette avec du sang dans leur culotte. En attendant, elles lisaient les albums de Bécassine et les patins d'argent de Pégistal, en famille d'Hector Malot. Elles allaient au cinéma avec l'école voir M. Vincent, le grand cirque et la bataille du rail, qui élevaient l'âme et le courage, refoulaient les mauvaises pensées. Mais elle savait que la réalité et l'avenir se trouvaient dans les films de Martine Carole. Les journaux dont les titres « Nous deux »,« Confidence » et « Intimité » annonçaient la désirable et interdite impudicité.
Un petit train s'en va dans la campagne. Un petit train s'en va de bon matin. On le voit filer vers la montagne, tchitchifou, tchitchifou, plein d'entrain. Dans les prés, il y a toujours des vaches.
Le progrès était l'horizon des existences. Il signifiait le bien-être, la santé des enfants, les maisons lumineuses et les rues éclairées, le savoir, tout ce qui tournait le dos aux choses noires de la campagne et à la guerre. Il était dans le plastique et le formica, les antibiotiques et les indemnités de la sécurité sociale, l'eau courante sur l'évier et le tout à l'égout, les colonies de vacances, la continuation des études et l'atome. On disait à l'envi, comme une preuve d'intelligence et d'ouverture d'esprit,
« Il faut être de son temps. »
Les parents affirmaient,
« Les jeunes en sauront plus que nous. »
Et là, s'il y a des gens qui trouvent que c'est exagéré de donner tant d'argent pour qu'un petit train aille se promener, alors ils lui ont dit... Cette
fois, dans la réalité, l'exiguïté des logements obligeait les enfants et les parents, les frères et les sœurs, à dormir dans la même chambre. La toilette continuait de se faire dans une cuvette, les besoins dans des cabinets au dehors. Les serviettes hygiéniques en tissu éponge dégorgeaient leur sang dans un seau d'eau froide. Les rhumes et les bronchites des enfants se dégageaient avec des cataplasmes à la farine de moutarde. Les parents soignaient leur grippe à l'aspro avec un grog. Les hommes pissaient en plein jour le long des murs. Et les études suscitaient la méfiance, la crainte que par une sanction obscure, un retournement punitif pour avoir voulu monter trop haut, elles rendent dingo. Des dents manquaient dans toutes les bouches. L'époque, disaient les gens, n'est pas la même pour tout le monde. Le cours des jours ne bougeait pas. Au printemps revenaient les communions, la fête de la jeunesse et la kermesse paroissiale, le cirque Pindère, et les éléphants de la parade bouchaient d'un seul coup la rue de leur immensité grise. En juillet, le Tour de France qu'on écoutait à la radio. À l'automne, les manèges et les baraques d'attractions de la fête foraine. La religion était le cadre officiel de la vie et réglait le temps. On ne mangeait pas de viande le vendredi. La messe du dimanche demeurait une occasion de changer de linge et traîner un vêtement, mettre un chapeau, un sac et des gants, voir des gens et être vu, suivre des yeux les enfants de cœur. Pour tout le monde, un signe extérieur de moralité et la certitude d'un destin s'écrivant dans une langue particulière, le latin. La religion seule était à la source de la morale, conférait la dignité humaine sans laquelle la vie ressemblait à celle des chiens. La religion catholique seulement, les autres étant erronées ou ridicules. On attendait avec impatience la communion solennelle, préalable glorieux de tout ce qui allait arriver d'important, les règles, le certificat d'études ou l'entrée en sixième. Après avoir tonné d'une seule voix aux vêpres, « Je renonce aux démons et je m'attache à Jésus pour toujours », on pouvait se dispenser ensuite des pratiques religieuses, adoubées chrétiens, muni du bagage nécessaire et suffisant pour se sentir intégré dans la communauté dominante et être certain qu'il y a sûrement quelque chose après la mort. Tout le monde savait distinguer ce qui se fait de ce qui ne se fait pas, le bien du mal. Les valeurs étaient lisibles dans le regard des autres sur soi. À l'habillement, on distinguait les petites filles des adolescentes, les adolescentes des jeunes filles, les jeunes filles des jeunes femmes, les mères des grands-mères, les ouvriers des commerçants et des bureaucrates. Public, privé, l'école se ressemblait. Lieu de transmission d'un savoir immuable dans le silence, l'ordre et le respect des hiérarchies, la soumission absolue. Porter une blouse, se mettre en rang à la cloche, se lever à l'entrée de la directrice mais non d'une surveillante, se munir de cahiers, plumes et crayons réglementaires, ne pas répondre aux observations, ne pas mettre en hiver un pantalon sans une jupe par-dessus. Le droit de poser des questions n'appartenait qu'au professeur. Les programmes ne changeaient pas. Le médecin malgré lui en sixième, les fourberies de Scapin, les plaideurs et les pauvres gens en cinquième, le CID en quatrième, etc. Ni les manuels, Mallet Isaac pour l'histoire, Demangeon la géographie, Carpentier Fialip l'anglais. Ce bloc de connaissances était délivré à une minorité, confortée d'année en année dans son intelligence et son élévation, de Rosa Rosam à Rome, l'unique objet de mon ressentiment, en passant par la relation de Charles et la trigonométrie. Au lieu que le plus grand nombre continuait à faire des problèmes de train, du calcul mental, à chanter la Marseillaise pour l'oral du certificat. Avoir celui-ci ou le brevet était un événement, salué dans les journaux qui publiaient les noms des lauréats. Le travail, l'effort et la volonté évaluaient les comportements. Le jour des prix, on recevait des livres exaltant l'héroïsme des pionniers de l'aviation, des généraux et des colonisateurs, Mermoz, Leclerc, Delattre de Tassigny, Lyautey. Le courage quotidien n'était pas oublié, il fallait admirer le père de famille, cet aventurier du monde moderne, Peggy, la vie humble aux travaux ennuyeux et faciles, Verlaine, commenter en rédaction des sentences de Georges Duhamel et de Saint-Exupéry. La leçon d'énergie des héros de Corneille montrait comment l'amour de la famille conduit à l'amour de la patrie et que le travail éloigne de nous trois grands maux, l'ennui, le vice et le besoin, Voltaire. On lisait Vaillant et Âme vaillante. Pour fortifier la jeunesse dans cet idéal et l'endurcir physiquement, la maintenir à l'écart des pièges de la paresse et des activités débilitantes, la lecture et le cinéma, il était conseillé aux familles d'envoyer leurs enfants au Louveteau, Pionnier, Guides et Jeannette, Croisés, Francs et Franches camarades. Au-dessous de l'idéal s'étendait, on le savait, un territoire informe, gluant, contenant des mots et des objets, des images et des comportements. Les filles mères, la traite des blanches, les affiches du film Caroline Chéri, les capotes anglaises, les mystérieuses publicités pour l'hygiène intime discrétion assurée, les enfants de l'amour, les attentats à la pudeur, l'adultère, les mots lesbiennes pédérastes, la volupté, les fautes inavouables à confesse, les fausses couches, les vilaines manières, les livres à l'index, l'union libre. À l'infini, une somme de choses innommables que les adultes seuls étaient censés savoir, se ramenant tout aux organes génitaux et à leur usage. Le sexe était le grand soupçon de la société qui envoyait les signes partout, dans les décolletés, les jupes étroites, le vernis à ongles rouges, les sous-vêtements noirs, le bikini, la mixité, l'obscurité des salles de cinéma, les toilettes publiques, les muscles de Tarzan, les femmes qui fument et croisent les jambes, le geste de se toucher les cheveux en classe, etc. Il était le premier critère d'évaluation des filles, il les départageait en « comme il faut » et « mauvais genre ». La cote de moralité affichée à la porte de l'église pour les films de la semaine ne concernait que lui. Mais on déjouait la surveillance. On allait voir Manina, la fille sans voile, La rage au corps, avec Françoise Arnoul. On aurait voulu ressembler aux héroïnes, avoir la liberté de se comporter comme elles. Mais entre les livres, les films et les injonctions de la société s'étendait l'espace de l'interdiction et du jugement moral. On n'avait pas le droit à l'identification. Dans ces conditions, elles étaient interminables, les années de masturbation avant la permission de faire l'amour dans le mariage. Il fallait vivre avec l'envie de cette jouissance qu'on croyait réservée aux adultes et qui réclamait d'être satisfaite coûte que coûte, en dépit de toutes les tentatives de diversion, les prières, en portant un secret qui rangeait parmi les pervers, les hystériques et les putains. Dans le lit ou les WC, on se masturbait sous le regard de la société entière.
La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là. C'est magnifique, des jours tout bleus, des baisers lumineux.
C'était Les années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lemp. Deuxième émission avec Ludmila Mikael et Jacques Gamblin, et les voix de Yolande Folio, Christiane Millet, Jean-Claude Sachaud. Prise de son et mixage, Philippe Carminati. Assistance technique et montage, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès.
C'est magnifique, des nuits d'amour qui durent qu'un seul jour, oh là là là. Mais c'est magnifique, revoir Paris, retrouver ses amis, c'est magnifique. La la la, c'est magnifique.
Les années de Annie Ernaux est publié aux éditions Gallimard.
C'était un été d'écrivains, des entretiens, des lectures, des auteurs français, des auteurs étrangers. Toute cette semaine, Annie Ernaux. Vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr cette émission, ainsi que toute la série d'un été d'écrivains. À demain.